Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
L'interview que vous allez entendre est celle de Tof Payot, administrateur de Erdiwa, mais aussi tout nouvellement libraire, à la librairie Mosaïque.
Ben justement, alors moi j'ai une question, Nénu, c'est Tof, effectivement, alors, pourquoi tu fais plus de radio? Enfin si, on t'entend un peu, comment ça se fait?
Vraiment, c'est un problème de temps, clairement, quoi.
Ouais.
Et après aussi, parce que je développe pas d'émission encore pour l'instant, mais peut-être qu'avec cette histoire de librairie, on va, mais voilà, j'espérais faire ça à la rentrée, je pense que ça va prendre un peu plus de temps, parce que quand même c'est un gros morceau, une bonne phase de l'Everest qu'on entame là.
Ouais.
Du coup, y a des petits trucs à régler avant de se faire plaisir, mais oui, je vais refaire de la radio avec grand plaisir.
Chouette. Oui. Alors bon,
ça sera un truc littéraire, tu sais,
oui,
où je serai là. Oui, alors voilà, on vient de faire ça.
Oui.
Alors ce livre est hyper intéressant parce que il développe gna 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 gna. Et avec moi pour en parler, j'ai Madame gna gna gna. Et ça va être trop bien, quoi.
Ouais.
Ça va être une émission littéraire,
ouais.
Quoi.
Ouais, quoi. Et alors, toi, t'es un lecteur. Voilà, c'est quoi ton endroit de lecture et ton domaine de lecture?
Alors mon endroit, c'est plutôt le lit.
Ouais. Le matin, le soir, la nuit?
Plutôt le soir, la nuit, ouais.
Ouais.
Alors, c'est marrant, j'étais à Avignon et j'ai rencontré parmi mes collègues une fille très, très sympathique, on se croisait depuis un moment à Avignon. Et là, je la vois avec, chargée de BD, avec des BD un peu. Et elle me dit, moi, je les lis le matin. Je me réveille avant, ce pourquoi je dois me lever. Et je prends ma demi-heure, trois quarts d'heure, et je bouquine le matin. Et ça, je pense, vraiment, c'est le meilleur moment. De toute façon, dans une journée, si la veille n'a pas été trop pénible, le meilleur moment, c'est quand même le matin. C'est là où tu es le plus disponible, c'est là où tu retiens plus les choses. Mais bon, ça, on n'apprend rien à personne. Mais...
Ouais.
Et ça m'a donné vachement envie d'essayer de faire ce truc. Mais c'est vrai que j'ai une vie plutôt active là en ce moment. Du coup, les matins, je n'en ai pas vraiment. Et
alors, moi, je sais aussi que tu es amateur de BD et que tu es un grand lecteur. Qu'est-ce qui se passe avec la BD là pour toi? Ça date de quand et comment tu as vécu avec la bande dessinée depuis combien d'années?
Je sais pas, depuis gamin, quoi. Ma mère m'avait abonné au journal de Spirou.
Ah ouais.
Donc j'ai commencé par le journal de Spirou. Alors là, tu découvres tous les grands classiques, quoi.
Ouais.
Les Tintins aussi, machin. Enfin, tu vois, moi j'ai c'est complètement classique. Et après, ado, tu switches sur Fluide Glacial. Voilà.
Il y avait des BD à la maison quand tu étais gamin dans ta famille?
Non, pas plus que ça. Pas plus que ça, mais je viens d'une famille de grands lecteurs, d'enseignants aussi. Et du coup, il y a des bouquins, j'ai toujours marné dans les bouquins. Toujours. Et par contre, la BD, non, pas trop, quoi.
Ouais.
À part, il y a deux, trois titres, genre Maus de Art Spiegelman qui est passé parce que ça raconte l'histoire des Juifs et pendant la guerre, de camps de concentration, tout ça. C'est un truc un peu sérieux. Donc ça, c'était passé, quoi. Donc ça, j'ai lu ça aussi assez vite. Mais c'était à peu près la seule référence que tu pouvais trouver, à part dans ma piole, quoi. Voilà, et après...
Je peux te poser une question en termes de littérature, du coup. Quels sont les ouvrages qui ont marqué ta famille, tes parents?
En littérature, littérature?
Mais du coup, vu que si c'était des grands lecteurs, est-ce que tu as connaissance de vraiment des trucs qui les ont touchés et marqués à fond?
Et qui t'ont peut-être transmis?
Eh ben, c'est une très bonne question, parce que non, je peux pas y répondre. Mon père est prof de philo, était, parce qu'il est à la retraite maintenant. Donc il lit plutôt des choses assez pointues, là, hein, des trucs, toi tu bouffes deux pages, c'est un peu ciblé, et c'est bourré de références, tout ça, mais ma mère lit plus des romans, elle est dans le polar, oui, effectivement, il y a beaucoup de polar, et ça... Ça a très bien marché. Moi, je suis arrivé au polar par Le Poulpe, qui est une série... En fait, l'idée, c'est très intéressant, c'est que c'est toujours le même personnage, avec toujours le même entourage, tu vois, sa copine, son contexte, mais qui est à chaque livre repris par un auteur différent. Voilà, donc et ça, c'est une grande saga, quoi.
C'est excellent.
Il doit y avoir 50 histoires du poulpe, quoi.
Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que le polar, c'est vraiment un style littéraire que tu te mets à lire à un certain âge. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je connais pas de personnes jeunes qui lisent forcément des polars, mais que les personnes un peu plus âgées, à partir de la quarantaine, elles ont des bibliothèques de polars.
Qu'est-ce qu'on recherche au travers du polar? Parce que ces intrigues policières, ces intrigues oui, alors peut-être.
Tu te rassures, quoi. Ouais. Tu cherches à te rassurer.
Ouais, mais c'est comme quand tu regardes. Qu'est-ce qui t'attire dans un film glauque, dans un film perturbant? C'est ça, en fait. C'est juste. Non, je sais pas d'ailleurs, mais c'est. En tout cas, je pense que c'est une partie de l'histoire de justement de te mettre un peu. D'aller explorer les tréfonds de l'humain, quoi. Tu vois, parce que c'est souvent des histoires un peu glauques, c'est celles qui accrochent, là. C'est pour ça l'Europe du Nord est très très calée en polar. Ils ont des ambiances qui sont déjà posées naturellement, quoi. La brume, le froid, les hivers interminables, la pauvreté, une certaine pauvreté.
Alors, est-ce que dans cette librairie mosaïque, il va y avoir un rayon polar, et comment il va être agencé?
On lui fait l'honneur, parce que le rayon polar existait bien entendu à la librairie avant, mais ils avaient mis ça comme avec la SF, la science-fiction, dans la cave en dessous. C'est une librairie qui a un grand rez-de-chaussée,
Bresson, quoi.
Un premier étage et une cave aménagée, voûtée, très jolie, mais que nous on a décidé d'annexer pour notre travail et de réserver, de ne pas de le public n'y va plus, quoi. On a viré, et du coup on a monté là récemment ces deux rayons là et SF et polar qu'on a mis en littérature. Voilà, parce que pour nous déjà c'est dans la continuité, tu lis du roman mais tu lis aussi du policier, donc c'est pas réservé justement qu'à une espèce de lecteur, quoi. Et puis on trouvait que cette ambiance cave était un petit peu trop ambiance cave aussi, et puis on avait besoin aussi d'espace, donc voilà, on a fait ce choix là
et du coup dans la cave, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la cave maintenant?
Et ben pour l'instant il y a du bordel. Il y a des cartons, il y a de la réserve de bouquins, il y a des lumières qu'on a démontées, qu'on a changées, c'est un peu. Mais à terme, on va essayer d'en faire un lieu un peu chaleureux, accueillant, qui sera réservé peut-être à des émissions de radio, qui sait, ou bien à des expositions, qui sait. Ouais.
Des lectures collectives,
qui sait.
Ouais. Oui, parce que finalement, vous agencez aussi votre librairie, parce que derrière, il y a une idée, et on n'agence pas un lieu n'importe comment. Il y a bien quelque chose qui vous guide. Alors, qu'est-ce que c'est?
Alors là, on reste très prosaïque, hein. On reprend quelque chose qui tourne depuis 30 ans, qui tourne bien. Pour l'instant, on ne change pas du tout au tout. C'est une librairie qui est très portée sur les sciences humaines, donc l'actualité, les débats, la politique, les différences de point de vue, donc l'histoire, enfin des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est une librairie, si vous avez l'habitude de fréquenter les librairies, en général, la plupart du temps, c'est quand même, tu rentres et tu as d'abord les rayons littérature et ensuite des choses un peu plus. Bon, bah voilà. Chez nous, c'est sciences humaines et ensuite littérature, dont Polar et SF, et au premier étage, la BD. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. On voit comment ça fonctionne. Et je pense que notre gros du boulot à nous, ce qu'on va apporter, ça sera moins dans la mise en place des rayonnages plus que dans les événements qu'on va pouvoir. Faire les animations, donc on remplace des gens qui sont partis à la retraite, donc qui ont fait ça un long moment, donc ils avaient un peu mis de côté toutes ces parties là nous on est plus jeunes, on a plus nombreux aussi, on a faim, et du coup on va vraiment développer l'animation, quoi. On va des dédicaces, des lectures, tout ça.
Est-ce que vous pensez faire quelque chose avec les gamins, par exemple, avec le lycée?
Pourquoi pas, oui, bien sûr.
Ça peut être marrant, ça aussi.
Ouais, ben là, d'ailleurs, il y a eu un truc mis en place par je sais plus qui nous emmène deux classes. Alors nous, on va dans les classes, ça concerne deux classes de 4e ou 3e, je sais plus. Mais voilà, on va les voir, on leur explique le métier. Bon, moi, ça fait 2 semaines et demie, hein, mais quand on fera ça, ça fera peut-être 3 ou 4 mois, mais bref. C'est l'idée, quoi. On leur explique le monde du livre, comment ça s'écrit, les auteurs, les diffuseurs, les éditeurs, enfin voilà. Et puis après, dans un deuxième temps, eux viennent et découvrent la librairie et nous posent des questions et tout ça. Donc il y a déjà des choses qui sont mises en place assez simplement, parce que ça, je pense que ça doit émaner du ministère ou de la région, je sais plus. C'est un peu une colle, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et en plus, c'est peut-être le ministère, parce que et en plus, tous les gamins qui participent à ça, ils ont un bon d'achat de 30 boules par tête de pipe, quoi.
Pas mal, t'as bien 3 livres.
Et du coup, pour 30 boules, t'as bien 3 livres, t'as 2 BD, enfin, voilà.
Et du coup, dans ce travail de libraire, quand même, vous vous sentez soutenu par la société, par les, j'allais dire l'État aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous accompagner et qui fait du bien?
J'ai pas assez de recul pour répondre, mais je sais, par exemple, moi c'est marrant parce que je travaille dans le spectacle avant, et pendant le confinement, ces histoires de Covid à la con là, on a annulé toutes nos dates, toute notre saison, et on se battait sur le fait que la culture c'est quand même essentiel, les gens ont besoin, enfin, et on est resté nous non essentiel. Et moi j'ai changé de boulot récemment. Et la librairie, par contre, est passée en essentiel. La vente de livres est passée en essentiel. C'était aussi à l'automne dernier pour contrer le fait que, comme le magasin et les librairies étaient fermées, Amazon et autres se gavaient sur Internet parce que les gens avaient encore envie de choper les bouquins et du coup n'avaient que cet accès-là. Donc ils ont changé le truc et ils ont passé la librairie en essentiel. Voilà, donc c'est une certaine forme de soutien. Ça a eu un impact énorme sur toutes les librairies indépendantes de France, vraiment, qui ont très très bien travaillé différemment de d'habitude, parce qu'elles ne recevaient pas du public dans les locaux, mais faisaient du click and collect. Mais voilà, on fait du chiffre cette année, plutôt bien, quoi. Donc c'est aussi, et puis ça a aussi responsabilisé certaines personnes qui ont quitté ces réseaux Amazon et tout ça, et ont compris que pour certaines ont appris, alors que c'est une loi qui date de 1980 ou 81, il faudrait que je le sache, mais 80 ou 81, qui est la loi du prix unique du livre. C'est-à-dire que votre bouquin, ça a le même prix sur Amazon que dans une librairie indépendante. Donc à ce compte-là, quel est votre choix, quoi? Alors oui, ils nous battent sur les livraisons. Si le bouquin il est dans la librairie en bas de chez toi, c'est bon, il peut l'avoir tout de suite. Si je ne l'ai pas, Amazon iront plus vite que moi pour te l'envoyer chez toi. Bon, voilà. Mais c'est le seul truc où la personne, si vraiment elle a besoin du bouquin...
Il y a un peu le truc vicieux, c'est aussi que sur Amazon, tu as des livres d'occasion.
Ouais.
Et t'en as du coup certains livres d'occasion qui sont moins chers.
Et d'ailleurs, ils bluffent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire... On n'a pas le droit de faire de remise sur un livre... sur un livre neuf. On a une ambiance qui s'installe.
Et un personnage qui est venu danser un peu.
Et beaucoup de ces entreprises-là déstockent, comme si c'était de l'occasion, des livres qui sont encore des nouveautés, ou pas loin de ne plus l'être, et les passent en occasion, comme tu dis, pour 2-3 balles de moins. Donc la personne, c'est marqué « état neuf ». C'est le petit état neuf, en fait.
Okay.
Et souvent, c'est précisé « état neuf sous blister », quand c'est des trucs, tu vois, encore emballés et tout. C'est une truanderie, voilà, en vrai, parce que le bouquin est vraiment neuf et ils peuvent le déstocker parce qu'ils considèrent que c'est l'occasion, c'en est pas.
Voilà. Est-ce que le... Pardon.
Ouais, j'avais une petite question tout à l'heure, mais je peux la poser comme ça, après j'irai chercher des bières.
Oui,
si okay, ça vous va.
Super.
Oui. Est-ce que vous voulez une bière, c'est ça? La réponse est oui.
Alors, je voulais te demander, depuis que du coup tu es rentré dans cette librairie, est-ce que tu es allé dans d'autres librairies depuis que tu as repris celle-ci?
Alors concrètement, on a repris la librairie début juillet. On était chez nous début juillet. Et moi, je suis parti 2 jours après à Avignon pour mon ancien boulot, que je fais encore jusqu'à fin août. Et donc, je suis revenu il y a 4 jours. Donc, j'y ai passé 5 jours dans la librairie. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir ailleurs. Mais toute cette année-là, on est parti, oui, à Lyon, on est parti voir d'autres librairies. Moi, avant, j'habitais près de Cré, donc je connais très bien aussi la librairie La Balançoire à Cré, qui est très très bien. dont on s'est aussi inspiré, moi, notamment au niveau BD, parce que là-bas, je me gavais. Ici, quand je suis arrivé à Surdi, c'était un peu plus difficile, quoi. Donc voilà, des exemples, en fait, on en a. Et puis moi, j'ai beaucoup voyagé, et à chaque fois, pas à chaque fois, ça serait mentir, mais bien souvent, si une librairie se présente, j'y rentre. C'est un univers que j'aime beaucoup, ouais, qui est...
Enfin,
que beaucoup de gens trouvent apaisant. Mm. J'ai des gens qui rentrent là, j'en ai vu qui rentrent, juste ils se baladent, ils prennent un peu le pouls, ils regardent les bouquins, machin, ils achètent rien mais ils ressortent, ils sont bien, ils sont, c'est toujours agréable une librairie, je trouve.
Et une librairie, c'est donc un endroit qui fait du bien, et j'imagine que c'est aussi un endroit qui milite, qui dit quelque chose, quoi. Et donc,
pas, c'est un choix.
Alors vous, justement, est-ce que vous militez pour quelque chose, et pourquoi, et quelle est cette chose?
Bah, on va pas parler de militantisme tout de suite parce que on n'est pas encore dans ces mots-là, et on est plutôt engagé, on peut le dire. On est aussi alerte sur ce qui se passe dans l'actualité, donc on saura réagir quand il faudra, s'il le faudra. On met bien entendu certains ouvrages plus en avant que d'autres. Vous ne trouverez pas le dernier livre d'Éric Zemmour chez nous. En revanche, vous pouvez le commander. Voilà. C'est-à-dire qu'on a quand même une réalité commerciale. On est trois et on a une employée. On a quand même un devoir de tenir et de faire un certain chiffre pour qu'on puisse vivre ensemble de tout ça. Ce qui nous empêche de devenir, par exemple, si je vais dans le sens que tu voudrais m'emmener, de dire, eh ben, aujourd'hui, la librairie Mosaïque est une librairie anarchiste qui ne vendra que du militantisme d'extrême gauche, par exemple, qui serait le meilleur exemple à donner si on devait faire quelque chose plutôt que de l'autre côté, ce qui ne se passera jamais, voilà, si certains avaient des doutes, mais je pense pas. Mais voilà, on va rester une librairie généraliste. Vous pourrez trouver les prix Goncourt, vous pourrez trouver des choses plus affiné que nous on apportera par nos choix, parce qu'il faut savoir que des productions, des sorties en France, il doit y en avoir entre 50 et 60 000 par an. C'est énorme. Donc une librairie ne peut pas tout avoir, elle fait ses choix, et c'est ce qui va donner la couleur de la librairie que vous avez en bas de chez vous. Et quand vous êtes dans une grande ville, vous avez une librairie que vous préférez à une autre, et ben vous savez pourquoi. Parce que cette librairie-là, vous y trouvez ça, vous y trouvez ce sujet-là, vous y trouvez un étalage sur le théâtre, par exemple, parce que vous aimez le théâtre, et qu'il y aura beaucoup plus dans cette librairie que dans celle du voisin. Voilà, c'est oui. Tout.
Et il y a aussi des gens qu'on rencontre dans cette librairie. Et alors, quel genre d'accueil, quel genre de relation, toi, tu aimes vivre avec les gens qui rentrent dans ta librairie?
Bah, que j'aime, pour l'instant, j'ai pas assez d'expérience pour avoir des exemples.
Mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment de...
Ça dépend vraiment, ouais. Ça dépend, parce que à faire tourner, c'est quand même très prenant. Et donc, pour l'instant, on a peu de temps pour se poser vraiment avec les gens. Après, on est là parce qu'on est en plein mois de juillet, août, c'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent le Diois, on triple la population dans Adi et dans les alentours. Donc, c'est des mois qui marchent très, très bien. Donc, on a vraiment peu de temps pour s'étaler. Par contre, un mois de février, un mois de mars... Je pense, voilà. Parce que je ne les ai pas encore vécus, voilà. Mais je pense qu'on va rentrer quand les touristes seront plus là, on aura moins de gens qui fréquenteront, et là se passeront des choses qu'on aimera aller chercher, c'est-à-dire, oui. Ben voilà, moi je vais beaucoup m'occuper du rayon de BD, j'ai mes goûts, et je vais sans doute me retrouver auprès de certains clients qui auront les mêmes goûts que moi, et déjà c'est vrai que ça arrive, et je suis allé aussi vers chez ces gens-là, leur demander qu'est-ce qu'ils aiment, pourquoi, et donc moi je vais aussi apprendre beaucoup, et j'espère pouvoir aussi leur dire, ben, du coup tu aimes ça, machin, ça va être mon boulot, quoi. Moi je t'emmène là-dessus, ok, c'est un peu différent de ce que tu as l'habitude de lire, mais je sens que depuis les trois derniers achats que tu m'as fait, je sens que je vais peut-être pas me planter. Et puis voilà, tu vois, c'est ça qui va être intéressant, effectivement.
Oui, c'est d'arriver à rencontrer quand même de l'intimité avec les gens qui vont venir visiter cette librairie. Il y a forcément une connaissance forte qui se fait avec les gens.
Oui, oui, et encore une fois, on n'a pas assez de recul pour la vivre, parce que Oui, on connaît une partie de la population d'Iwaze, mais on ne connaît pas tous les gens qui fréquentent la librairie, et ils sont extrêmement nombreux.
Mais c'est aussi peut-être ce qui t'excite un peu dans cette envie d'ouvrir cette librairie, de partir dans cette aventure qui est toute nouvelle.
Oui. Je t'avoue que le livre, l'objet... Et la chose qui fait que je suis extrêmement heureux aujourd'hui de reprendre ce boulot-là. Moi, j'ai travaillé dans le spectacle, donc du relationnel, j'en ai fait pendant 20 ans, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas aller chercher du relationnel. Forcément, ce besoin de relationnel, il est déjà assouvi quelque part. J'ai déjà pratiqué un boulot qui m'offrait la possibilité de... Donc oui, j'espère pouvoir continuer. Et de toute façon, dans les petits pays dans lesquels on vit, comme le Diwa, les gens se rencontrent très vite, se parlent assez vite. On est quand même dans un pays assez ouvert. Et du coup, oui, ces relations-là vont se faire autour du livre. Mais je les ai vécues et... C'est aussi pour ça que je te dis que ça m'attire et que ça me fait peur, parce que je quitte un milieu qui a pour moi été très très fort, très dense. Je le quitte avec peine aussi, beaucoup. Et du coup, je voudrais éviter de mettre trop d'attentes dans ce que maintenant je vais réaliser, pour ne pas avoir à me dire... Ah, en fait, je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas.
Mais tout à l'heure, tu parlais des domaines essentiels de l'économie, enfin au moment du premier confinement là. Et la librairie est devenue un endroit essentiel. Alors qu'est-ce qui pour toi et aussi dans ta carrière de gens du spectacle et aujourd'hui de libraire qui va se construire, qu'est-ce qui est essentiel?
Bah tu fais les points communs entre les deux mondes, tu le résumes par le mot culture et puis ça suffira. Mais après il y a tellement de domaines. Je sais que maintenant, comme je vais arrêter de bouger, je vais pouvoir m'abonner au Théâtre de Die, par exemple. Chose que j'ai jamais réussi à faire parce que j'étais jamais trop là, tu vois. Mais pour moi, oui, l'essentiel, il est là, quoi. Il est dans la communication des gens avec les autres, quoi. Quelqu'un qui écrit un beau livre, c'est aussi quelqu'un qui... C'est la même personne qui peut faire une belle pièce de théâtre. Enfin, c'est pas du tout le même travail. Je suis pas en train de dire que la même personne va faire les deux, mais pour moi, c'est le même intérêt. On est dans ces milieux-là, on est poussé par l'envie de parler à son semblable, de soit pour raconter une histoire, soit pour faire réfléchir, soit pour, je sais pas, toutes sortes de choses, soit pour alerter, soit pour se souvenir, pour se rassurer, pour s'aimer, si on enlève aujourd'hui, on enlève le théâtre, le cinéma, la lecture, qu'est-ce qui reste? Pourquoi on se bat? C'est qui avait dit ça? C'était un grand général anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais on lui avait dit pendant la guerre, vous augmentez les budgets de l'armée, mais vous ne diminuez pas le budget de la culture. Et là, le mec lui répond, mais pourquoi est-ce qu'on se bat, en fait? Pourquoi est-ce que je baisserais le budget de la culture? Pourquoi est-ce que je le baisserais si... Pourquoi on fait tout ça, quoi? Pourquoi on se bat contre des vilains qui voudraient que on est tous le même bouquin, on est tous les mêmes couleurs de peau, on est tout, tu vois? C'est parce que finalement c'est ça. En 40-45, la Seconde Guerre, on avait des nazis qui voulaient qu'on ait tous la même couleur. Aujourd'hui on n'est pas très loin, c'est d'autres formes, mais on se bat contre ce sectarisme, on se bat contre les idéaux préconçus, on se bat contre le paternalisme aujourd'hui, on se bat contre plein de choses.
Et ça, c'est pas militant, parce que tout à l'heure tu disais c'est...
Non, mais forcément.
Ah.
Mais forcément. Mais pour moi, c'est un fait, quoi. Enfin, oui, tu vas pas. Si ce projet de librairie n'avait pas fonctionné, je me serais pas dit, c'est pas grave, je vais ouvrir un kebab. Tu vois, je n'ai rien contre les vendeurs de kebab, mais tu vois ce que je veux te dire. J'aurais dit, tant pis, je continue mon boulot ailleurs. Il faut forcément qu'il y ait un intérêt pour moi dans ce milieu-là, quoi. Enfin, la culture est hyper importante pour moi, et je pense que c'est ce qui peut nous sauver. Ça ne suffira pas, mais
et c'est aussi pour ça que tu es un des administrateurs du RDIWA
aussi, ouais. Voilà, effectivement, le lien est aussi fait sur la radio, le média, qui aujourd'hui pour moi, soutenir une radio locale en y investissant du temps, c'est soutenir une communication libre, une parole libre, Et c'est tout à fait la même chose que oui, quand tu crées un spectacle et que tu vas le jouer avec les petits moyens ou des gros moyens d'ailleurs. Il y a des gens qui ont des gros moyens qui font des choses très bien. C'est aussi, c'est la même chose que quand tu défends un ouvrage dans ta librairie. C'est la même chose que quand tu es bibliothécaire et que tu conseilles pour que les gamins ils puissent repartir avec des bouquins qui les feront évoluer. Et voilà, c'est oui, tout est important et tout se lit, oui. Tout se lit.
Et toi, tu te sens à l'aise dans le fait de conseiller des lectures ?
Pas encore.
Ça doit être chaud, ça, quand même.
Bah oui, c'est pas évident. Moi, je m'exprime avec des... Là, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me voient, je m'exprime avec des gestes. Ouais. J'ai aussi... les mots sont plus difficiles à trouver pour moi. En plus, je suis pas dyslexique, mais des fois, je mets des mots qui sont pas du tout pareils dans une phrase. Mais alors, la personne qui est en face de moi sur le moment va me comprendre, mais en fait, si tu l'écoutes, ça marche pas, quoi. Ouais. Voilà, donc ça fait rire, tant mieux. Mais voilà, oui, ça va être quelque chose, ouais, de conseiller sur une personne qui va me dire ah bon, mais pourquoi? Parce que j'aime bien ça et je pense que ça pourrait. Ah bon, mais pourquoi? Tu vois, là, à un moment donné, je vais trouver un truc pour m'échapper, quoi. Je sais pas comment ça va se passer, mais
surtout que t'influences clairement la vie des gens en quelque sorte, même si c'est momentané, c'est sur une lecture. Mais ça peut avoir des impacts assez forts et c'est vrai que les gens qui te demandent des conseils, c'est aussi des gens qui sont en recherche de quelque chose sans pouvoir pour autant l'exprimer eux-mêmes ou en tout cas avoir les connaissances suffisantes pour trouver ce qu'ils cherchent. Et toi, tu es là pour apporter une forme de solution et ça, c'est quand même un enjeu assez, assez fort.
Et une responsabilité.
Oui, aussi, ouais. Une des personnes avec qui j'ai repris la librairie me raconte un jour qu'elle avait mal conseillé une amie à elle, qui était revenue après, qui avait dit « Ah mais non, mais ça, je sais pas pourquoi tu m'as fait lire ça, pas du tout, quoi. » Après, les goûts de chacun, tu vois, tu peux aimer tout un truc et puis aller te décaler, adorer et du coup considérer que tu peux le mettre dans ton panier, mais le panier de la personne en face qui aura lu la même série qu'il aura aimé autant n'aura pas aimé ce petit truc qui aura dévié, quoi. Voilà, parce que bon, donc il faut accepter de se planter. Hein. Oui. Moi j'ai fait du théâtre, il faut accepter aussi de se planter, quoi. Il faut prendre les bides, c'est pas grave, quoi.
C'est ça que j'allais aussi. Rebondir, c'est faire avec l'imprévu, quoi, jouer avec ça.
Voilà.
Et ça c'est l'art aussi du commerçant, de jouer. Alors, quel personnage de commerce tu rêves d'être, pardon?
Alors que je rêve d'être, je sais pas, mais en tout cas, mes proches me rassurent sur cette question-là en me disant, ne t'inquiète pas, au pire, tu les feras rire.
Voilà.
Tu les conseilleras mal. Je veux pas dire que je suis quelqu'un d'extrêmement drôle, mais je pense que j'accepte beaucoup de me planter aussi, et j'ai plutôt tendance à ne pas laisser passer un ange qui passe, justement, à ne pas laisser passer l'ange et à trouver une connerie pour essayer de désamorcer un truc qui pourrait être chiant. Voilà. Donc ça risque d'être assez drôle. Venez me piéger. Je pense que vous allez y arriver assez facilement et vous verrez bien.
Ouais,
soit ça vous fera rire, soit pas du tout. Après, je pense que ça va être, je vais être assez hermétique à d'autres, mais c'est pas grave, c'est comme ça, quoi.
On verra, c'est l'aventure qui va continuer là dans les, bien sûr, dans les prochaines semaines.
Vous écoutez Tough sur
RDIWA
107.5.
Et puis alors
depuis 41 minutes 11.
Mais non.
Et oui, oui,
et si.
Oui.
Et ça pourrait être
Tough, tu es enfermé ici pendant 3 heures à savoir.
Merde.
Non, alors moi ce que je propose Nenu, c'est que ça fasse l'interview du jour, d'un de ces quatre là.
Oh.
Ben si, parce qu'on a un joli sujet, ça en va le couper, mais moi je trouve que ça serait enfin je sais pas ce que t'en penses, moi ça me plairait beaucoup.
Ce
hein.
que je vous propose,
alors,
c'est de partir sur cette base.
Ok.
Et je viens avec mes deux collègues et on se fait un truc à trois parce que.
Mais là,
allez, vas-y,
top.
Vas-y.
Non, mais je peux en placer
yes.
une.
Oui,
oui, bah oui.
C'est-à-dire que c'est Tough Payot qui est administrateur de RDIWA. On est à HHPQ. On en fera un autre d'interview. Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Par contre, là, c'est Tough, quoi. De RDIWA.
Ça, tu coupes, ça.
Voilà.
Et mais ça résonne en toi, ça résonne pas sur les
auditeurs. Ah ben ça, on n'en sait rien, ça. Attends, excuse-nous.
C'est de qualité. Par contre, moi,
merci,
ça me casse les oreilles. Je ne sais pas si vous, ça
c'est
vous...
un peu fort, hein.
C'est
ouais.
fort, ouais.
Il est sourd, le Vincent.
Je ne sais pas si c'est le moment, mais il ne faudra pas qu'on oublie à Tough de demander. Enfin, moi, c'est une proposition. Après, tu comprendras ou pas. Mais si tu veux bien si c'est le moment de terminer le moment de l'interview du jour, disons, dans sa forme précise, là. Est-ce que tu voudrais bien me proposer une musique à écouter pour terminer ce moment d'entretien, d'interview avec toi depuis cet endroit-là, HHPQ, en live, quelque part dans la montagne, n'est-ce pas, Nénu ?
Exactement.
Ouais.
Que je me trompe pas, mais il me semble que c'est The Four Seasons, et c'est la chanson, elle s'appelle Begin. Et ça, top. À écouter tous les matins. Tous les matins.
Begin, le commencement.
Et... I'm there.